Depuis le premier dimanche de l'Avent, nous nous préparons à ce grand événement de la venue de Dieu au cœur même de notre vie, de nos vies. Oui, Dieu vient nous chercher, il vient nous sauver. Nous, qui sommes souvent perdus, il faut bien le reconnaître, et qui parfois sommes véritablement en danger. Cette venue de Dieu est certainement notre plus beau cadeau, le plus beau cadeau qui puisse être fait à notre humanité blessée. Et je dirais que comparé à un tel don, les cadeaux que nous nous offrons à Noël ne sont rien, à moins qu'il n'en soit le signe de ce don, ce qui, il faut bien le reconnaître, devient de plus en plus rare dans nos sociétés de consommation qui ne savent plus lire dans le signe l'événement inouï auquel il renvoie, à savoir Dieu avec nous, Noël. Cette venue du Sauveur, déjà le prophète Isaïe l'annonçait 8 siècles avant la naissance de Jésus. Et vous l'avez entendu, nous l'avons entendu, dans la première lecture. Le prophète s'adresse à un roi, le roi Akaz. Et pour bien comprendre, il faut savoir que la situation pour ce roi n'était pas de tourpeau. C'est un roi qui était très inquiet parce que les armées ennemies étaient aux frontières de son territoire, et de plus, la population à l'intérieur de Jérusalem ne cessait de manifester son mécontentement. Alors, dans cette situation et ambiance explosive, Isaïe, le prophète, invite le roi à s'en remettre au Seigneur. Et au lieu de cela, Akaz préfère faire appel au puissant roi d'Assyrie, finalement préférant se confier lui aux armes plutôt qu'à Dieu. D'où la colère d'Isaïe. Il ne suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est ce que j'appelle une sainte colère. Ça fait du bien parfois des colères comme ça. Et puis Isaïe ajoute, devant ce refus d'Akaz de demander un signe au Seigneur, « Eh bien, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. » La Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors du coup, moi je trouve que cette colère d'Isaïe est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que Isaïe nous révèle que Dieu, lui, eh bien il ne prend pas son parti de nos refus de marcher en sa présence. Dieu promet d'intervenir, et d'intervenir d'une manière décisive, par ce Fils qu'on appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, c'est vrai que la façon qu'a Dieu d'intervenir en promettant un enfant sans défense, ça a quand même de quoi nous déconcerter, ça trouble notre raison. Nous sommes bien loin des moyens puissants d'intervention de nos sociétés. Cet enfant porte le nom d'Emmanuel, ce qui, encore une fois, signifie littéralement « Dieu avec nous », et ce qui est tout différent de « Dieu avec nos armées », à pas confondre. Cet enfant qui nous est donné comme signe de l'accomplissement des prophéties n'utilisera pas les moyens puissants de ce monde. Sa seule force sera celle de son amour jusque sur la croix. Eh bien, frères et sœurs, c'est de cet amour-là dont nous devons aujourd'hui être les témoins. Cet amour gratuit, cet amour désarmé qui nous est révélé à Noël, nous avons, comme Isaïe, à le vivre dans des contextes qui sont aussi explosifs qu'au temps d'Akaz. voire peut-être beaucoup plus explosif, tant ils sont nombreuses les hostilités auxquelles nous sommes confrontés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, par exemple. Alors je pense que, comme pour le prophète Isaïe dans la première lecture, ou comme saint Paul dans la lettre qu'il adresse aux chrétiens de Rome, oui, notre témoignage doit faire face à l'incrédulité d'un grand nombre de nos contemporains. Mais je dirais que cette expérience difficile ne nous décourage pas, parce que rien, ni personne, vous l'avez entendu, ne peut empêcher Dieu de vouloir sauver le monde. Cela prendra du temps. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est-à-dire le temps nécessaire à la conversion de nos vies. J'en viens à l'évangile de Matthieu. C'est toujours la même ligne, Dieu avec nous. L'évangile de Matthieu est une proclamation de l'accomplissement des prophéties, Dieu avec nous. Et la proclamation de cet accomplissement est dite tout entière dans l'annonce de la naissance de Jésus qui est faite par l'ange à Joseph. C'est vrai que nous sommes plus habitués au récit de l'annonciation faite à Marie, l'annonce faite à Marie. Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, c'est bien à Joseph qu'est adressée l'annonce de la naissance à venir de Jésus. Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et vous avez remarqué que l'évangéliste Matthieu qualifie Joseph d'homme juste. De quelle façon Joseph est-il juste? Je pense que Joseph est juste d'abord parce que c'est un veilleur qui veille malgré son incompréhension et sans doute sa profonde déception. Joseph veille à ne pas créer de scandale quand il apprend que celle qui lui est promise est enceinte. Joseph fait le choix de la renvoyer en secret, pas de scandale. C'est un homme bon. Mais il me semble que ce qui fait essentiellement de Joseph un juste, c'est-à-dire un homme bien ajusté à Dieu, c'est le fait que Joseph se fait docile à la parole de l'ange lorsque l'ange vient lui parler en songe. Vous savez que dans nos vies, on peut faire des cauchemars quand on dort. Ça, c'est pas agréable. On peut faire des rêves. Ça, c'est plutôt bien. Dans les rêves, on s'autorise à voir ce qu'on n'ose pas voir dans la journée. On s'autorise à réparer ce qu'il y a à réparer. Un rêve, c'est bien. Et puis, parfois, il y a des songes. Les songes, c'est là où nous sommes les mieux disposés. C'est là où le Seigneur se dit, allez, on n'a plus nos propres défenses, nos propres peurs. On est disposé, disponible, et Dieu peut nous parler. C'est ce qui se passe pour Joseph, avec tout ce qu'il a apporté dans son trouble. Et donc, je pense que ce qui fait de Joseph un homme juste, c'est bien d'avoir, dans le songe qu'il a fait, eu cette docilité d'accueillir la parole de l'ange. Joseph, ne crains pas, n'ayez pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle est ton épouse. L'ange, de la part de Dieu, le lui confirme. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une histoire d'infidélité, c'est au contraire l'histoire d'une profonde fidélité qui est celle de Dieu à nos propres vies. En consentant à la parole de l'ange, vous ne trouvez pas que Joseph participe comme Marie au grand projet de Dieu, qui est de sauver son peuple de ses péchés? Et puis après tout, si on veut bien réfléchir un petit peu, dites, ce qui arrive à Joseph vaut pour nous, car dans nos propres vies, on en fait tous l'expérience. Dieu a l'art de nous conduire parfois sur des chemins que nous n'avions pas prévus, mais qui sont féconds parce qu'ils sont les siens. Et tous nous faisons cette expérience. Alors, dans ce temps très court, une semaine, qui nous sépare de Noël, prenons encore, encore et toujours le temps d'accueillir les signes. Ne soyons pas comme Akaz. Prenons le temps d'accueillir les signes du Seigneur qui vient à nous. Écoutons sa parole. C'est Jésus qui nous fait signe. Recevons-le dans son Eucharistie. C'est Jésus qui se donne en nourriture. Rencontrons-le à travers les petits, les pauvres, les exclus, ceux qui marchent, ceux qui sont enfermés dans leur maison, ceux... Rencontrons-le à travers les autres. Car ça, ce sont les signes du Seigneur Jésus qui vient pour nous sauver. Alors, autant que faire se peut, mais avec la grâce de Dieu, tout se peut. Autant que faire se peut, faisons de nos vies, dès maintenant, un berceau. Faisons de nos vies comme un berceau de la naissance du Sauveur. Afin de pouvoir proclamer dans la joie, joie intérieure, joie qui traverse les souffrances, qui est plus forte que les souffrances, la joie qui vient d'en haut, on le dit chaque fois à la messe, afin de pouvoir proclamer dans la joie, au jour de Noël, la parole de Dieu faite chair, Noël, et de pouvoir proclamer également le nom de Jésus, dans lequel nous sommes sauvés, parce qu'il s'est fait effectivement Emmanuel, Dieu avec nous.